things I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, le spectacle vivant. Cette émission est préparée par Justine Dibling, Virginie Le Duo et Boris Pinault. Prise de son assurée ce soir par Vincent René, réalisation Daniel Finot. Ce soir, René Solis et Philippe Chevillier se font face à notre affiche Amphitryon de Molière. Mise en scène Christophe Roque au Théâtre du Nord à Lille, puis au Théâtre Gérard-Philippe de Saint-Denis. Le Testament de Marie de Colm Teubin, mise en scène Deborah Warner à l'Odéon, Théâtre de l'Europe. Et puis on évoquera plus rapidement La Journée d'une rêveuse et autres moments d'après copie, mise en scène Pierre Maillet au Théâtre du Rond-Point, puis en tournée. La 8e édition Chantier d'Europe au Théâtre de la Ville. Et puis Les Palmiers Sauvages, d'après Faulkner, mise en scène Séverine Chavrier au CDN d'Orléans. Dans le petit salon, vers 21h20, Xavier Martin nous parlera théâtre et christianisme. Et puis en fin d'émission, Boris Pinault passera un coup de fil au chorégraphe Vincent Dupont pour son spectacle « Maître en pièces ». Il y aura bien sûr encore des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute. Ce soir, des invitations pour l'exposition « L'esprit français contre culture » à découvrir jusqu'au 21 mai, plus que quelques jours, à la Maison Rouge à Paris. Direction pour commencer le Théâtre du Nord à Lille pour un projet qui s'enracine loin dans le parcours du metteur en scène Christophe Roque, patron de ce théâtre qui a été repéré par le directeur du Théâtre d'Art de Moscou au moment de sa mise en scène du mariage de Figaro à la Comédie Française, c'était en 2007. Roque avait alors été plusieurs fois en Russie. Le projet n'avait pas abouti, mais il était retourné avec le même spectacle en 2010. Et cette fois, ce sont les comédiens de l'atelier Piotr Fomenko qui ont vu le travail du metteur en scène et qui l'ont apprécié. En 2015, rencontre entre Christophe Roque et le nouveau directeur de théâtre Piotr Fomenko. Et puis après plusieurs propositions de textes, c'est donc l'Amphitryon de Molière qui a été choisi. Christophe Roque est le premier metteur en scène étranger à travailler avec la troupe des Fomenki. Il est donc parti à Moscou, travailler dans ce temple du théâtre. Il faut quand même rappeler que c'est une institution, 400 salariés, dont 55 comédiens, qui lèvent le rideau tous les soirs, qui a un répertoire, un peu comme notre Comédie Française, une soixantaine de pièces, plus de nouvelles créations. Ben, voilà, cet Amphitryon est entré au répertoire de ce théâtre, 430 places pleines tous les soirs. Et puis après sa création en Russie, fin janvier, le spectacle est arrivé en France, se joue en ce moment à Lille, avant de venir au TGP à Saint-Denis. On peut parler à présent de la pièce, en août 1667, la deuxième version du Tartuffe est, comme la première, interdite de représentation. Molière ferme son théâtre pendant cette semaine et donc chômage technique, mais il écrit Amphitryon, inspiré de Plaute, il passe donc par la tragédie antique pour mieux parler de ce qui l'intéresse vraiment ses contemporains, le Jupiter de la comédie étant clairement un décalque du roi Soleil. L'intrigue, c'est Jupiter qui veut conquérir Alcmène, jeune mortel marié à Amphitryon, un général parti à la guerre. La belle étant d'une fidélité sans faille, Jupiter prend l'apparence d'Amphitryon pour parvenir à ses fins. Il y a aussi Sosie, le valet d'Amphitryon, qui est lui-même remplacé par Mercure dans la maison. La situation se complique évidemment lorsque revient le véritable Amphitryon.
Votre fils, votre ami, celui qui vous intéresse. Avant de mourir, j'arriverai peut-être à dire son nom, mais je ne crois pas. Me fais face. Je tiens. Mais c'est difficile. Je tiens.
Mon fils, lui ai-je dit, a réuni autour de lui une bande de désaxés qui n'étaient que des enfants comme lui. Ou des hommes sans père,
Bon, ça arrive, hein. Ça, c'est un extrait du Télémastamon de Marie, dont on va parler tout à l'heure, mais on va peut-être caler l'extrait d'Amphitryon. C'est disponible ? Bon, on va écouter alors cet extrait d'Amphitryon.
La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. En un nous, se désaltérer dans le courant d'une onde pure. En loup, survient un jeune qui cherchait aventure et que la faim en ces lieux attirait. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage, dit cet animal plein de rage, tu seras châtié de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je me vois désaltérant dans le courant, plus de vent pas au-dessous d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi, tu médis l'an passé. C'est donc quelqu'un détient, car vous ne m'épargnez guère. Vous, vos bergers, vos chiens, on me l'a dit.
Entendu ce bel accent russe, mais il faut quand même tout de suite préciser les choses. C'est le seul moment en français de cette représentation que cette fable de La Fontaine dite par une des comédiennes des Fomenki. Le reste est bel et bien en russe. On en reparlera tout de suite peut-être. René Solis sur cet Amphitryon mis en scène par Christophe Rauque.
Alors il y a beaucoup de choses à dire, ce qui est
toujours commencer.
Toujours bon signe.
Bon signe.
On va dire.
D'accord.
Moi j'aurais beaucoup de choses à dire sur ce spectacle.
Prenons le temps.
Vous avez rappelé le contexte historique de la pièce de Molière. Donc effectivement le Jupiter, le roi Soleil et Alcmène, c'est sans doute Madame de Montespan. Enfin il y a des allusions que les contemporains de Molière évidemment saisissaient. Et par ailleurs le texte n'est pas très critique sur ces histoires de loups et d'agneaux, hein. On peut dire que voilà, mais il y a aussi quand même une dimension très importante dans la pièce qui est, c'est quand même le grand thème de Molière, c'est une histoire de cocu-fiage. Et donc la pièce a été représentée en 1668, en janvier 1668, et la pièce suivante des répertoires de la troupe de Molière, ça a été Georges Dandin. Donc on est quand même là aussi dans le même registre. Alors c'est une drôle de pièce quand même. Amphitryon, il a écrit très vite et il a pompé dans Plaut abondamment, ce qu'il a quand même beaucoup fait, mais oui. Il le fait évidemment très bien. Et donc il y a le double aspect, il y a un côté farce et il y a un côté divertissement merveilleux avec cette histoire des dieux de l'Olympe qui débarquent sur Terre et qui jouent avec les hommes. Et mais le côté farce est aussi très important, c'est vraiment une comédie. Et le spectacle de Christophe Rauque, on n'entend pas beaucoup cette dimension farcesque. Et on entend une dimension qui est une dimension de comédie, mais qui est une comédie extrêmement noire et extrêmement sombre. Et de ce point de vue-là, son spectacle est plutôt très réussi parce que très cohérent. Il y a vraiment il veut dire quelque chose à propos de cette pièce de Molière et sa mise en scène suit ça. Et ce qu'on entend et ce qu'on voit, c'est une histoire de rapport de force absolument épouvantable. Et de ce point de vue-là, l'extrait du loup et de l'agneau, oui. Effectivement, puisque finalement, ce qui monte, c'est presque une histoire de lutte des classes. C'est la terreur que peut inspirer le pouvoir. à ceux qui ne l'ont pas, hein, aux petits. Alors, c'est évidemment le personnage de Sosie qui est personnage central de là-dedans.
Le valet d'Amphitryon, donc.
Le valet d'Amphitryon. Et donc, on entend remarquablement bien, je trouve, cette dimension-là. C'est ça qui l'intéresse et c'est aussi ça qui traduit dans sa scénographie. Alors, la pièce commence par un prologue entre la nuit et Mercure, où Mercure demande à la nuit de prolonger le plus possible pour laisser le temps à Jupiter de jouir des faveurs d'Alcmène, et donc il faut pas que le jour se lève, et donc la nuit se fait un peu prier, enfin bon, et le décor de Christophe Rock est un décor complètement nocturne. Sa scénographie est une scénographie de la nuit. D'ailleurs, les costumes.
C'est Aurélie Thomas qui signe la scénographie.
Aurélie Thomas, les costumes, les couleurs sont du noir et blanc. Mmh. Et on est effectivement dans une nuit qui est une nuit finalement assez cauchemardesque. Et qui est cette nuit où le pouvoir se révèle de la façon la plus brutale et la plus crue et impose sa volonté. Et on trouve aussi dans la mise en scène cette dimension-là, c'est-à-dire qu'on a souvent l'impression que les acteurs sont... c'est un décor qui ne les met pas très à l'aise, parce qu'il y a entre des jeux de miroirs et des ponts en équilibre sur lesquels ils sont pas forcément extrêmement...
stable.
Eh bien, on a le sentiment qu'ils sont effectivement les jouets de puissance qui les manipulent et tout ça. Et donc, cette dimension, cette lutte des classes dans Amphitryon, je trouve qu'on l'entend très bien.
Je reviendrai vers vous, Aurélien, qui avait beaucoup de choses à dire. Philippe Chevillet, sur Amphitryon, en ce moment, à Lille, au Théâtre du Nord.
Moi aussi, j'ai cette impression s'il y a du rire, c'est du rire vraiment jaune ou du rire grinçant, parce que c'est vraiment abominable cette histoire finalement. Jupiter qui prend même pas la peine d'essayer de la séduire, qui prend l'apparence d'Amphitryon et qui en a rien à faire. Bon, à un moment, il essaye un petit peu de l'amadouer, mais à la fin, quand il annonce que finalement, c'est très bien que Amphitryon était fait cocu par un dieu, c'est pas très grave, qui va laisser d'ailleurs un enfant dans l'escarcelle Hercule. C'est drôle parce que finalement cette pièce, je l'avais pas vraiment entendue comme ça les fois où je les avais vues, parce que justement il y avait ce côté un petit peu fable mythologique, divertissement. Et là on a à la fois ce que disait René, c'est-à-dire cette noirceur et cette nuit qui s'abat, ce jeu de double, alors qui est un jeu de double quand même assez étonnant, parce que justement il y a plein de doubles dans la pièce. Il y en a même dans les comédiens, puisque il y a les deux femmes de la pièce sont deux sœurs, donc on a ce jeu de double sans cesse. Et c'est reflété par les miroirs qui peuvent faire des scènes très très belles quand il y a les chandeliers qui se reflètent dans le miroir, que ça pivote, que ça fait un peu ciel étoilé, ou qui peuvent donner des impressions en effet cauchemardesques. Et alors en plus, comme il a utilisé évidemment il y a ces acteurs russes qui ont un abattage assez puissant, et qui, alors assez puissant, et en même temps il leur a mis des micros pour peut-être un peu pour les brider un peu, qu'ils arrachent de temps en temps. C'est dans la mise en scène d'ailleurs, quand ils n'en peuvent plus. Et donc il y a cette violence, parce que vraiment Jupiter est tout sauf sympathique. Le couple Amphitryon et Alcmène, quand ils commencent à se disputer, une scène de ménage qui est absolument épique et qui d'ailleurs mord sur la salle. Les deux comédiens viennent carrément dans le public, dans les rangs pour s'engueuler. Tout le monde est épuisé à la fin. Et donc moi j'ai été plutôt conquis par cette version noirissime, alors qui peut ne pas faire rire d'ailleurs, on peut, mais quand même moi j'ai beaucoup souri, parce qu'il y a quand même ce second degré permanent, et cette vision, effectivement ce jeu de pouvoir, on se dit que vraiment voilà, les puissants ont tous les droits et que les autres n'ont qu'à se taire, et à la limite c'est même une médaille que d'avoir été fait cocu par Jupiter, par le dieu des dieux, c'est voilà.
Le comique, il est quand même présent, notamment par les interprètes, et notamment, effectivement, par Karen Badalov, qui joue Sosie, qui est quand même un abattage tout particulier. Moi, je dirais que le seul problème que j'ai eu avec ce spectacle, c'est la langue dans laquelle il est joué, parce qu'on passe quand même beaucoup de son temps, si on n'est pas russophone, comme ça a l'air d'être votre cas, René Solis, qui vous demandait ce que je dis, mais on regarde beaucoup les surtitres, alors... Même si on connaît la pièce, on l'a vu il n'y a pas si longtemps au Vieux Colombier, on rate quand même beaucoup de choses, et je trouve que Christophe Rock confirme encore une fois sa science de l'espace, de la direction d'acteur, et qu'Amphitryon, c'est d'abord un festival d'images très belles, qui utilise donc au mieux cette scénographie faussement dépouillé d'Aurélie Thomas, via les lumières d'Olivier Audio. C'est vraiment la magie du théâtre, c'est ça que j'aime chez Christophe Roux, parce qu'il joue des effets, il joue de la machinerie, il joue des transformations d'espace, mais il joue aussi avec le texte de Molière, avec les codes aussi, puisque le chantage au suicide, ça se fera à la roulette russe, ce qui est assez logique avec les Fomenki, donc des petites choses comme ça, mais c'est vrai que c'est bien de réviser son Amphitryon peut-être avant d'y aller voir, pour pas perdre trop de ce qui se joue sur le plateau, parce que ces comédiens sont effectivement dirigés autrement qu'à leur habitude. Donc ces micros à chef qu'ils portent les obligent à être un peu plus en dedans. Cette scène de ménage épique dont vous parliez entre le vrai Amphitryon et Alcmène, pour moi c'était ils étaient un peu trop dans le rouge, ça criait quand même un petit peu trop. Mais c'est vrai que ils y gagnent la plupart du temps en subtilité, en finesse d'interprétation. Et je pense que c'est pour eux, visiblement, aussi une belle expérience d'être dirigés autrement, de sortir un peu de leur habitude, René Solis.
Oui, non, tout à fait. Il y a peut-être juste une toute petite réserve mais sur la mise en scène, mais qui est presque un des ajustements de détails. C'est-à-dire que il sait ce qu'il fait, ce garçon, ce metteur en scène, ce qui est quand même...
Oui, c'est bien, hein, déjà.
Oui, c'est bien, ouais, c'est d'accord. Bien, parce que... Et puis, il y a l'ambition, comme vous dites, d'utiliser vraiment la machine du théâtre. Enfin, il donne, il travaille. Il y a du travail, on le voit. Et donc ça, c'est vraiment bien. Il manque peut-être juste le fait que quelquefois on le voit un tout petit peu trop, le travail. C'est-à-dire qu'il y a une petite forme de rigidité, je trouve, à certains moments. On voudrait à certains moments lui dire relâche un peu. Peut-être qu'il y a une couche de finition, de légèreté finale, qui n'est pas encore complètement là. Et c'est juste une petite réserve sur le ton du spectacle. Ce qui fait que le spectacle garde un côté un petit peu solennel, un ton un petit peu trop sérieux, peut-être.
Je vois ce que vous voulez dire, mais alors je me demande, parce que, par exemple, ce lâcher prise et ce côté lâche-toi un peu, on l'avait dans Figaro Divorce, qu'il avait mis en scène précédemment, je crois que vous l'aviez vu aussi, Philippe Chevillier, où c'était avec des comédiens qu'il connaît bien. Je pense que l'expérience de travailler avec ces comédiens vedettes, ce sont des stars absolues, je pense qu'il faut quand même sans doute beaucoup plus cadrer pour que ça reste davantage dans les clous. Enfin, ça, c'est vraiment une interprétation que j'ai, mais c'est vrai que le travail de Christophe Roux, il peut donner aussi quand même ces moments de lâcher prise qui permettent aussi aux comédiens d'être un peu en dehors tous les soirs et d'aller dans des directions. Là, je crois que, si j'ai bien compris, il faut quand même les border pour pas que ça déborde dans tous les sens. C'est peut-être pas dans la façon dont Christophe Roux l'aimerait. Philippe Chevillier.
Alors, c'est peut-être justement cohérent avec la mise en scène et le propos. C'est finalement, le personnage, vous en parliez, c'est le personnage de Sosie, qui est joué par Karen Badalov, qui est vraiment assez extraordinaire, de ce côté un peu étourdi, qui prend tous les coups de bâton, mais avec une espèce de grâce. C'est finalement c'est évidemment le moteur de la pièce, c'est le personnage humain dans l'histoire, qui est vraiment humain et qui a tout compris, qui comprend tout. Et du coup, au fond, s'il y a un personnage avec lequel pour lequel on éprouve une empathie et qu'on sent vraiment incarner le propos de Molière, c'est plus lui. Les autres sont peut-être plus dans des caractères, dans des personnages, jouant peut-être plus en force, même si c'est très amusant parfois ou très impressionnant. Et alors, évidemment, c'est un rôle très important et c'est peut-être le premier rôle, Sosie. Donc finalement, c'est logique. Mais porté par un tel comédien qui a tout compris, c'est vrai que ça donne peut-être ce petite légèreté qui manque au restant du spectacle.
Oui, je suis complètement d'accord avec ça, parce qu'il est vrai, il est formidable, parce qu'il a justement le côté lunaire dans la nuit. C'est un Pierrot, c'est pas du tout le valet de comédie, il est pas du tout sur ce registre-là. Il est sur quelque chose de beaucoup plus poétique, de beaucoup plus, souple, on peut dire. Et il donne vraiment une sorte de d'âme au spectacle. Il est formidable et il est étonnant, parce qu'il ne donne pas l'impression d'en faire trop du tout. Il est plutôt dans une forme de relâchement et de souplesse. Oui, ça, c'est formidable.
Enfin, les autres sont pas mal aussi. Il amène beaucoup d'inquiétude.
Oui, on sent ça, qu'il y a quelque chose qui le travaille comme ça, et on est, oui, vous avez complètement raison sur l'empathie, on est avec lui.
Mais on est d'accord que les autres, je vous ai interrompu, c'est pas rien non plus.
Hein, ah non, mais c'est pas rien. Ah, le Mercure, même, joué par Ivan Verkovic.
Les femmes sont formidables.
Et très étonnant aussi, parce qu'il a, c'est un Mercure qui est un peu machiavélique, mais qui a un côté un peu intello aussi, c'est étrange, quoi. On sait pas très bien, ce qu'il fait. Et puis alors, les deux jumelles, quand même, donc, c'est les deux sosies, pour le coup, du spectacle, mais qui sont les seules qui ne prennent pas justement, qui jouent des rôles différents et qui ne prennent pas la place de l'autre, mais en fait, quand on les... Effectivement, donc c'est les sœurs Xenia Kutepova et Polina Kutepova, qui sont absolument formidables aussi. Bon, Amphitryon est quand même très bien dans le genre tout d'un bloc, en chef militaire, en général borné, il est parfait. Hein, je veux dire, on l'imagine sur quelques fronts de bataille actuels, sans aucun problème. Non, mais c'est quand même très bien. Hein, et puis c'est formidable que ça se joue longtemps en russe, à Lille, puis au Théâtre Gérard Philippe. Enfin, il y a vraiment la possibilité que ce spectacle ait un public large. Et bon, alors le surtitrage, on y est habitué quand même.
Bien sûr, je pense que c'est bien de préparer, c'est ça que je voulais dire avant, pour pas être absolument accroché sans cesse et profiter vraiment et des images et de la présence physique très impressionnante, imposante, inquiétante aussi de ces comédiens, de ces Fomenki. Amphitryon, donc, de Molière, mise en scène Christophe Rauch avec l'atelier théâtre Piotr Fomenko. C'est au Théâtre du Nord à Lille jusqu'à mercredi 17 mai. Et puis après, ce sera au Théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis du 20 au 24 mai.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
À suivre dans la dispute, Marie, Copy, Europe, Faulkner et Vincent Dupont. Avant cela, on suit Xavier Martinet dans le petit salon. Bonsoir, cher Xavier.
Bonsoir, Arnaud.
Ainsi soit le théâtre.
Ainsi soit le théâtre et le christianisme, puisque le testament de Marie, dont vous allez parler dans quelques minutes, est une relecture de la vie, une réécriture de la voix de Marie, mère de Jésus, bien sûr, dans les évangiles. C'est un monologue tiré d'un texte de l'écrivain Colm Toibin, écrivain irlandais, montré pour la première fois à Dublin en 2011, mise en scène par Deborah Warner, je n'en dis pas plus. En tout cas, coïncidence ou pas, 2011 était précisément en France l'année d'une vive polémique au sujet de deux spectacles à thème chrétiens, particulièrement centrés, eux, sur la figure de Jésus. Il s'agit bien sûr de Golgotha Picnic, de l'espagnol Rodrigo Garcia, et sur le concept du visage du Fils de Dieu, de l'italien Roberto Castellucci, toutes deux accusées de blasphème par des catholiques traditionnels. Ce qui est intéressant, là, ce sont moins les variations quant au dogme que la variété des interprétations qui en résultent, et peut-être aussi l'effort pédagogique qui a été fait pour sauver ces pièces, et notamment leur mise en scène. Par exemple, si on prend sur le concept du visage du Fils de Dieu, qui met en scène principalement un père diarrhéique, son fils et un tableau de Jésus, et bien les faux excréments sur le tableau de blasphème, évidemment un blasphème dans un cadre religieux, sont dans la logique scénographique, une sorte de communion. Il s'agit d'un spectacle sur la déchéance et la compassion, écrite ainsi Fabienne Pascaud dans Télérama. La pièce, continue-t-elle, n'a rien d'une œuvre sacrilège, c'est une prière, et elle ose même, Castellucci fait naître le sublime. Roméo Castellucci d'ailleurs, qui a sans doute poussé très loin la dimension, on va dire métaphorique, ce sont ces termes d'ailleurs. Même intention peut-être métaphorique aussi dans Golgotha Picnic, qui elle pratique allègrement au milieu des hamburgers écrasés la subversion et l'inversion de la liturgie, formules et dogmes catholiques. Brigitte Salino dans Le Monde y voit elle une poésie du désespoir, on pourrait dire, je la cite, c'est une charge, oui, mais pas au sens où l'entend Kiwitas, hein, une organisation catholique qui voit du blasphème là où il y a de l'imprécation à la Thomas Bernhardt et une mélancolie profonde à la Michel Houellebecq face à la désespérance que peut inspirer notre monde. Non pas donc un antéchrist, mais plutôt un anti-amour, hein, l'image d'un amour qui n'est plus possible, mais du coup plus vrai encore que l'amour christique. Là est la thèse, là encore une mise en scène, disons brutale, demande un certain esprit de finesse. Alors au milieu de ces polémiques et cette explication de texte, eh bien l'espagnol Angelica Lidl a aussi exploré sa veine chrétienne. C'est le cycle des résurrections, notamment cet épître de Saint Paul aux Corinthiens, montré en 2000 2015 en Suisse et en France. Poutre qui tombe des cintres, sans verser sur scène. Là aussi, la mise en scène est forte, voire spectaculaire. Mais pour une pièce, et vous le dites, Philippe Chevillet, mystique et païenne, où donc les accessoires religieux sont fétichisés pour se mêler à la foule des accessoires païens, ça c'est Libération qu'il note. Bref, une pièce qui a su s'éloigner de la figure de Jésus et de la subversion frontale du christianisme. La comparaison sans doute avec la démarche de Garcia et Castellucci est intéressante, et l'utilisation des moyens scéniques aussi. De ce point de vue, la réception du Testament de Marie, un texte d'un scepticisme plutôt rageur, comme le dit un journal, sera-t-elle marquée de lassitude ? En France, son propos et la démarche de Kolb-Toibin elle-même sont jugées parfois désuets. Plonger les grandes figures de légende ou de foi dans des bains de prosaïsme n'a rien de neuf, dit ainsi Armel Elio. Pièce, texte, ou en tout cas lui-même desservi par la lourdeur de sa mise en scène, avec vautours véritables et bougies votives, un peu trop démonstratives, conclut Elisabeth Franck Dumas. En janvier dernier, le Sydney Morning Herald était séduit par une mise en scène différente de cette pièce, puisqu'elle était montée en Australie, élégante, faite de contrastes entre tableaux à la Botticelli, dit le journal, et scènes crues avec cœur d'agneau battant à l'air libre. Le texte, je cite encore, révisionniste jusqu'au blasphème et qui lève le voile sur la mère de Jésus, semble quand même assez impuissant, en tout cas, à faire emporter l'adhésion de cette critique australienne. Alors, plus que la pièce elle-même, la presse des deux pays a surtout salué la performance de l'unique actrice, Alison White en Australie, ou Dominique Blanc, d'ailleurs, notez l'homonymie. Je n'ai pas eu le temps de détailler la saison entière non plus du Théâtre du Nord-Ouest, à un cycle religion et laïcité, ni la comédie musicale Jésus de Nazareth à Bercy en fin d'année, dont le maître mot du projet est l'humilité, dit Christophe Baratier, qui la mettra en scène. Mais la question est celle-ci, peut-être pas très profonde, mais faut-il forcément, et s'il en faut, des effets spectaculaires pour une pièce sur le catholicisme ou sur l'amour ?
Alors, effet spectaculaire ou image forte, je note que ce sont des Latins et un Irlandais qui sont attaqués à ces questions-là, ce qui n'est pas très étonnant. L'hispano-phil et phone René Solis.
Oui, non, effectivement, et on va parler tout à l'heure du Testament de Marie, donc de l'Irlande.
Du Sud pour l'instant.
Effectivement, évidemment, on peut se le dire, Espagne, Italie, Irlande, les pays les plus catholiques. Bon, oui, alors dans le cas de Rodrigo Garcia, c'est peut-être un peu différent, mais c'est vrai que peut-être sur Castellucci et sur Angelica Lidl, on peut relever ça. Relever aussi qu'il y a eu des contresens quand même. C'est assez tôt au moment où les pièces ont été montrées, parce qu'aucune des le concept du visage du Fils de Dieu, ni Golgotha Picnic, enfin, on peut en tout cas très bien en tirer une interprétation, au contraire, en faire des pièces quasi catholiques, c'est pas du tout, impossible. Et évidemment, le propos de l'un comme de l'autre n'était pas du tout de choquer pour choquer, absolument pas. Donc, mais on va parler du Testament de Marie.
Philippe Chevillet, théâtre et christianisme.
On peut aller voir les mystères, on n'a plus beaucoup, mais on peut aller voir Paul Claudel, l'annonce faite à Marie, par exemple, pour des vraies pièces chrétiennes.
Qui ne sont plus traitées vraiment tout à fait comme ça, non
mais
plus.
Mais qui ne sont plus traitées comme ça, et qui ont une dimension. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir aussi, il y a d'ailleurs des metteurs en scène un peu mystiques, ou qui revendiquent Liepi, ou même Bonnel, quand il a monté l'annonce faite à Marie, avait quand même une dimension mystique qui était assez forte. Bon, tout ça pour en revenir à l'idée que je réfléchissais au fait que on peut avoir des pièces, je sais pas, qui vantent l'anarchie d'une certaine façon comme Bâle, qui critiquent le nazisme comme Arthur Houy, qui appellent pour la révolution comme les bas-fonds de Gorki. Quand on aborde la religion, il y a toujours des mouvements, c'est toujours ce qui est le plus difficile à maîtriser par rapport à la réaction d'un public qui parfois d'ailleurs n'est pas un public de théâtre, mais c'est vraiment les sujets qui fâchent. Bon, alors on peut en revenir aussi à Tartuffe et à Don Juan, c'est la religion quand on la met en cause, ça touche à des cordes sensibles, et puis aussi à des mouvements politiques, puisque au fond, Civitas, des gens comme ça, c'est quand même tout d'un coup une résurgence de mouvements très politisés. On trouve une filiation. Je crois qu'en 2011, Frigide Barjot déjà défilait c'était contre le Golgotha.
Ouais.
Donc et des gens qui à l'évidence, alors sur Castellucci, c'est évident parce que c'est quand même un metteur en scène extrêmement mystique, même si il peut être iconoclaste, mais il est mystique quand même. Et donc c'est parfois incompréhensible de voir ce genre de réaction, mais je pense que la religion touche à quelque chose de vraiment très très fort et que ça arrive encore à créer, alors qu'après tout, on pourrait se dire qu'on peut tout dire au théâtre. Pourquoi ne dirait pas le théâtre dit le monde, il peut aussi dire ce qu'il veut contre la religion, ça provoque encore des remous et d'une certaine façon, moi, ça me choque que ça provoque des remous.
Xavier Martinet.
Oui, je pensais à cette idée, René Solis, que vous avez évoquée, qu'on pourrait avoir affaire dans certaines de ces pièces, contre toute attente et contre toute expression, à des pièces quasi catholiques. En tout cas, c'est ce dont on peut avoir l'idée en lisant certaines interviews, effectivement, de Castellucci, notamment, de la même façon de Angelica Liddell, j'en dirai un mot si je peux, mais quasi catholique. Pourquoi ? Parce que derrière ce débat, finalement, qu'on voit d'ailleurs un peu sous-jacent sur la représentation, doit elle être plutôt chargée ou plutôt dépouillée. C'est pour ça que je disais un mot aussi de la comédie musicale Jésus de Nazareth, puisqu'apparemment, ça va dans ce sens-là, et ils insistent dessus pour en faire un argument, de toute façon, sur le dépouillement. Donc, il y a bien quand même un débat qui se passe à ce niveau-là, et qui n'est pas seulement théâtral, à mon avis. Donc, des pièces quasiment catholiques, ou en tout cas évangélistes, qui veulent combattre sur le même terrain, celui de l'évangile, d'une certaine manière, la religion et l'histoire de la religion et l'église. Je voulais juste lire ces mots d'Angelica Liddell, elle a été interviewée par Le Temps. « Je me suis plongé dans l'épître aux Corinthiens, j'ai été fasciné par le dogme de la résurrection sans lequel il n'y aurait pas de christianisme, et puis je ne cherche pas à choquer, mais à exprimer une vie spirituelle. Ceux qui ont le sentiment religieux le plus fort n'ont pas toujours la foi. » Parfois, c'est ce que dit aussi Castellucci, Rodrigo Garcia peut-être un peu moins, je ne l'ai pas vu exprimer de tels sentiments.
C'est vrai. René Solis,
commentaire. Très bien. Non, Rodrigo Garcia est, disons, plus ironique, plus caustique. Mais ce n'est pas non plus, je veux dire, il n'y a rien de... On pouvait parfaitement retourner les choses. Rodrigo Garcia, c'est plutôt comme, je dis souvent, c'est comme un moraliste. C'est quelqu'un qui travaille sur le paradoxe. Hein. Et donc, il y avait des paradoxes sur Jésus, mais les paradoxes étaient... Aucun de ces paradoxes n'avait une visée polémique en tant que telle. Il ne cherchait pas à choquer.
Philippe Chevillier, pour
finir. Je voulais juste te dire, sur le dépouillement, en fait, je ne suis pas sûr qu'il y ait forcément un lien. C'est-à-dire que là, quand on parle de Castellucci, c'est évident que c'est quelqu'un qui fait des scénographies assez spectaculaires. On va parler du Testament de Marie, mais enfin, Deborah Warner, elle a son univers. Et Angelica Liddell, n'en parlons pas. Elle aime bien faire des images. Donc, elle le ferait avec des textes qui n'ont rien de christique. Donc, c'est leur marque de fabrique, en fait, qui ressort. C'est pas...
Leur écriture. De façon générale. Bon, on va parler effectivement dans un instant du Testament de Marie. Entre temps, on aura évoqué quelques autres spectacles. Pour l'heure, on referme les portes du petit salon. Pour découvrir à présent les recommandations des critiques présents ce soir, et puis René Solis, tiens, pour commencer, pour nous parler de la 8e édition de Chantier d'Europe, c'est jusqu'au 24 mai, quelques jours encore, hein, au Théâtre de la Ville à Paris.
Oui, alors un festival qui, c'est installé dans le paysage, c'est-à-dire qui travaille aussi sur des fidélités, ce qui est important, intéressant, avec une orientation, donc Chantier d'Europe... orientation quand même principale, enfin pas unique, mais vers l'Europe du Sud et en particulier vers la Grèce. Ça fait plusieurs années qu'ils font venir à Paris des artistes grecs, ils les suivent, il y a une importante programmation de choses grecques. Il y a cette année en plus beaucoup de choses sur le Portugal. Il y a aussi plusieurs spectacles portugais. Et puis il y a ce qui avait un peu moins et ce qui s'est révélé, je crois, tout à fait productif, une ouverture sur l'Espagne qui était un peu moins présente, et voilà, il y a eu plusieurs spectacles. Alors, juste un bémol, mais c'est pas la faute, encore une fois, il faut saluer le boulot réalisé par le Théâtre de la Ville sur ce festival. C'est le côté one shot, c'est-à-dire que c'est extrêmement frustrant.
Oui, il nous parlait d'un spectacle, mais nos auditeurs ne pourront pas le voir.
On peut pas le voir, et chaque spectacle est donné une fois. Alors, du coup, ils en présentent beaucoup, c'est bien, mais il y a quelque chose qui, moi, on peut pas dire va voir ça si on voit quelque chose, si on a une découverte. Donc, Chantier d'Europe, alors ça sert à ce que des programmateurs peut-être aient l'idée de les faire venir plus longtemps. Mais c'est un peu frustrant parce que le festival, l'idée du festival et du one shot, je trouve que ça va pas bien
ensemble. Oui, parce qu'il faudrait qu'ils en fassent peut-être venir moins, mais qu'ils jouent 3-4 fois.
Oui, peut-être. Alors, c'est une tendance lourde de jouer peu. Et moi, c'est une tendance qui m'inquiète un peu. Et encore une fois, il faut saluer justement Christophe Roch qui ose programmer en russe pendant 2 semaines au Théâtre du Nord, puis 5 jours au théâtre Gérard Philippe. Voilà, là il y a vraiment moyen de dire aux gens allez-y. Alors que là on est voilà. Alors j'ai vu moi un spectacle espagnol qui m'a beaucoup intéressé d'un metteur en scène qui s'appelle Pablo Fidalgo. Et donc le spectacle s'appelle Tu iras à la guerre qui commence aujourd'hui. Et c'est un spectacle qui est tout à fait en lien, en résonance avec le reste du festival, parce qu'il y a beaucoup de choses cette année sur l'exil, sur les exilés, beaucoup. Et c'est un spectacle étonnant parce que il part de l'histoire d'un grand-oncle à lui espagnol émigré en Argentine sous Franco, et il reconstitue une histoire d'exil à travers le monologue d'un comédien qui est en fait un comédien portugais qui s'exprime en espagnol. Et il y a un cheminement complètement inattendu sur ce terrain de l'exil, de la douleur, de qu'est-ce qu'on transmet. Voilà, beau spectacle, mais il y a beaucoup de choses, hein. Donc cette semaine, on va dire, on peut, il y a par exemple dès demain 6 courts-métrages grecs sur l'immigration, une lecture performance grecque demain aussi, mardi 16 mai, encore sur l'histoire des migrants, etc., etc. On continue sur ce thème-là. Donc il y a vraiment une fidélité à la fois à des artistes, à des thèmes, à des pays, et oui, saluons le boulot du Théâtre de la Ville.
Et pour cette 8e édition de Chantier d'Europe, on peut retrouver bien sûr le programme sur leur site internet ou un lien par celui de la dispute. C'est jusqu'au 24 mai au Théâtre de la Ville, donc il faut y aller, parce qu'évidemment on ne peut pas vous en parler avant. Une seule représentation à chaque fois, mais on reste d'une certaine façon dans la langue espagnole et dans l'exil, avec la journée d'une rêveuse et autres moments d'après Copie, Philippe Chevillier.
Alors c'est un spectacle qui est un peu bizarre parce qu'il mixe à la fois cette pièce qui est La journée d'une rêveuse de 67 de Copie, qui est un genre d'Olé beau jour complètement fantasque avec des tas de personnages, des facteurs qui volent, un vendeur de melons qui pourrait être Dieu, une tata gâteuse, et avec des êtres qui sont vivants ou morts mais qui tombent, qui sont peut-être enterrés dans le jardin, et cette femme, Jeanne, qui se raconte. Et parallèlement, on a des bouts de la préface que Copie avait écrite en 84 pour un roman inachevé qui s'appelle Rio de la Plata, où il raconte un peu à la fois des souvenirs sur Buenos Aires, mais aussi l'exil à Paris. Et tout ça se mélange. Et je me disais au début, quand ça a commencé, mais surtout pour un jeune public, nos twittos qui vont au théâtre et qui suivent et qui découvrent pour la première fois Copie, vont être perdus. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a Marie-Lou Marini. Et du coup, Marie-Lou Marini, elle arrive à lier tout ça, à coudre comme une fée tous ces bouts de Copie. Et elle ensorcelle littéralement le public. Et ça arrive à nous toucher, même s'il y a des moments qu'on ne saisit pas toujours. En tout cas, dans la partie de La journée d'une rêveuse. Et Pierre Maillet, qui a fait la mise en scène.
Et l'adaptation.
A réussi aussi à faire une jolie mise en scène, parce que le spectacle pourrait être totalement binaire, mais il ne l'est pas, parce qu'il est évolutif. Et que ça se transforme. Au départ, c'est assez austère, elle est dans sa petite robe noire, et puis ça devient cabaret. Il y a donc un pianiste qui est là, qui s'appelle Lawrence Hérisset, et qui est alors apparemment un descendant de Méliès, ça ne s'invente pas, mais qui joue très bien. Et puis elle se met à chanter, et elle a une robe, un long fourreau pailleté, et on part dans un univers assez fantasque, où il y a toujours cette joie, cet humour, ce second degré, et en même temps cette mélancolie très forte, parce qu'il y a quand même la mort qui rôde, il y a l'exil, et il y a des très beaux mots sur l'exil. Spectacle qui dure, je crois, pas loin d'une heure 30, 1h40, mais qui passe vraiment comme ça, et grâce à la magicienne Marie-Lou Marini.
Et à Pierre Maillet, quand même, qui connaît son Copie sur le bout des doigts, lui aussi.
Et à Pierre Maillet, et je voulais signaler qu'il y avait aux Solitaires Intempestifs les chroniques franco-argentines, donc une Marie-Lou Marini par Odile Quiro, où elle se raconte et qui est intéressant.
La journée d'une rêveuse, donc, et autres moments d'après Copie, mise en scène, adaptation Pierre Maillet, jusqu'au 21 mai au Théâtre du Rond-Point. Puis on pourra le voir aussi au Manège, la scène nationale de Maubeuge, le 24 mai. Et puis, puisqu'on parle encore de région, ce qui est tant mieux, beaucoup ce soir, je voulais dire encore quelques mots sur Les Palmiers Sauvages, d'après le roman de Faulkner, mise en scène Séverine Chavrier, parce qu'on a déjà parlé de ce spectacle lors de sa reprise à l'Odéon l'année dernière, mais il se joue cette fois dans la maison que dirige dorénavant Séverine Chavrier, le CDN d'Orléans. Je voulais signaler pour adresser mes encouragements à cette metteur en scène pour cette nouvelle étape de sa vie. Pour rappel, dire quand même que Les Palmiers Sauvages, c'est le titre d'une des deux nouvelles du livre de Faulkner. L'autre, c'est Le Vieux Père. Les Palmiers Sauvages, c'est une passion amoureuse terrible entre Harry, qui est un interne, qui travaille dans un hôpital de la Nouvelle-Orléans, et puis Charlotte, qui est mariée, qui a deux enfants, mais qui prend la fuite avec son bel Harry, ils ont trouvé de l'argent, bref, ils se débrouillent, mais le pécule, évidemment, s'amenuise. L'amour aussi, on va dire ça comme ça. Harry met beaucoup du sien, puisque, évidemment, il est absolument épouvantable. Mais c'est vrai qu'avec ses palmiers sauvages, moi, je trouvais que Séverine Chavrier avait du culot de s'attaquer quand même à un auteur très haut placé dans son panthéon, dans le mien, dans celui de beaucoup d'amour et de littérature, mais enfin, elle s'attaque aussi à Thomas Bernhard, comme on le sait. Et puis, elle a retenu la dimension sonore qui est quand même très présente dans le texte de Faulkner, et c'est vrai que le vent qui claque dans les palmiers, ça devient une image aussi dans son théâtre. C'est très savamment orchestré, il y a beaucoup de bruit et de fureur, beaucoup d'amour aussi, parce qu'il y a un travail sonore avec Philippe Perrin qui est très fin aussi, il y a du travail visuel. Bref, c'est un spectacle qui va à toute allure, qui est plein d'ellipses, qui est très rapide, très belle utilisation de l'espace, pas mal d'humour aussi. Et puis deux très beaux interprètes, Déborah Rouache et puis Laurent Papeau. Séverine Chavrier leur en demande beaucoup, mais ils en donnent beaucoup. C'est pourquoi je voulais signaler ces représentations. Alors, c'est de mercredi à vendredi, du 17 au 19 mai, les Palmiers Sauvages, au Centre Dramatique National Orléans-Loiret-Centre. Ça, c'est le nom complet. C'est à Orléans, c'est d'après le roman de Faulkner, bien sûr, mise en scène Séverine Chavrier.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Alors cette fois, vraiment, allons à présent à l'Odéon, Théâtre de l'Europe, en collaboration avec la Comédie Française, pour y découvrir cette mise en scène du Testament de Marie, comme Toybin, mise en scène Déborah Warner avec Dominique Blanc, un spectacle donc qui va nous permettre de poursuivre le questionnement entamé dans le petit salon. Comme Toybin, c'est un romancier, un journaliste irlandais qui a beaucoup publié, une bonne moitié on va dire de ses livres sont traduits en français, comme ce Testament de Marie. L'édition originale c'est 2012, la traduction française chez Robert Laffont 2015, le spectacle de Déborah Warner, lui, il a été créé en 2013 à Broadway, repris à Londres en 2014 avec Fiona Shaw, puis il y a donc cette haute production que j'ignorais, australienne, avec une Madame White, j'ai bien entendu.
Alison.
Et puis pour la VF, c'est donc Dominique Blanc, dans la traduction d'Anna Gibson, qui reprend le monologue de cette mère qui a perdu un fils quand même assez étrange, entraînant derrière lui une bande de désaxés, on a déjà un tout petit peu entendu l'extrait, qui a quand même vu mourir son fils en croix. Bref, elle vit à Éphèse désormais, et elle se souvient, cette fois-ci, l'extrait du Testament de Marie.
Mon fils, votre fils, votre ami, celui qui vous intéresse. Avant de mourir, j'arriverai peut-être à dire son nom, mais je ne crois pas. Me fais face. Je tiens. Mais c'est difficile. Je tiens.
Mon fils, lui ai-je dit, a réuni autour de lui une bande de désaxés qui n'étaient que des enfants comme lui, ou des hommes sans père, ou des hommes incapables de regarder une femme dans les yeux, ou de ces hommes qu'on voit sourire tout seul sans raison. Vous étiez tous des désaxés, ai-je dit, c'est la vérité. Je n'ai aucune patience pour les gens de votre espèce. Mon fils collectionnait des accès, alors que lui-même, malgré les apparences, ne l'était pas. Il était même capable de se tenir tranquille, il avait aussi ce talent-là, et il était capable de traiter une femme comme son égale. Il avait une grâce, il savait se conduire, il était intelligent. Et il a réuni toutes ces qualités magnifiques pour mener une bande de désaxés d'un endroit à un autre. Si on réunit une bande de désaxés comme vous, ai-je dit, on obtiendra tout ce qu'on voudra. Inconscience, imprudence, ambition. Et cela conduira à ce que j'ai vu, à la pire espèce de catastrophe.
Eh bien voilà, on a entendu un extrait de ce texte de Comme Toybin dont on parlait tout à l'heure. Philippe Chevillier, pour commencer, sur le Testament de Marie à l'Odéon en ce moment.
Alors moi j'avais découvert ce monologue en tant que roman. Alors si je comprends bien, en fait, il a d'abord écrit un monologue pour le théâtre, donc pour le Festival de Dublin, qu'il a transformé en roman. Il me semble qu'il est un peu plus long en roman, mais je ne l'ai pas relu.
Ah bon ? Oh, non, bah, vraiment,
non, j'ai relu le texte du monologue, mais pas celui du roman, que je n'ai pas retrouvé chez moi.
Je plaisante, évidemment.
Et donc, moi, j'avais trouvé qu'il y avait un souffle dans ce roman, un genre de souffle brûlant avec cette femme qui est Marie, se retrouve à Éphèse, il fait très chaud, elle est là, il y a tous ces apôtres autour qui essayent d'obtenir des éléments de langage sur Jésus, elle ne veut pas leur parler, c'est au début du livre il y a ça, et puis tout d'un coup elle se lâche et elle fait ce monologue, elle se raconte, et donc c'est ce qu'on voit sur scène, mise en scène par Deborah Warner. Je trouve que c'est un texte assez étonnant, moins simple qu'il n'y paraît, parce qu'après qu'on a compris la logique, quand tout de suite elle dit que les disciples c'était une bande des accès. On comprend que tous les éléments de la vie de Jésus que Marie a connus vont être démontés pour dire que finalement, non, c'était un homme, un tribun, certes, mais certainement pas le Fils de Dieu. Comme Tobin prend exactement, il reprend les évangiles, c'est-à-dire qu'on voit assez peu Marie, il y a les noces de Cana, il y a la crucifixion, donc il reprend ces éléments-là pour justement recréer cette histoire et rendre finalement à ce personnage mystérieux et à la fois iconique, mais complètement qu'on connaît très mal, lui donner une vie de femme, un esprit, une chair. Et moi, j'ai bien aimé la façon dont Deborah Warner amener ce spectacle, parce que au bout du compte, ce dont on parlait un petit peu en ébauchant tout à l'heure, il y a une entrée en matière dans ce spectacle on est sur la scène, en fait une installation religieuse avec des petites bougies, avec cette cage en verre dans lequel il y a des saints. Là, ça va être Marie elle-même qui va entrer pendant que les spectateurs montent sur la scène. On est donc dans une vision complètement religieuse, mystique, traditionnelle, jolie, fleurie. Et dès que le rideau se lève, en l'occurrence. Là, on arrive dans la maison de Marie et c'est un robinet, et elle est en jean, elle n'est plus du tout dans sa robe de
mariale.
Voilà, elle n'est pas maquillée du tout. Et je trouve qu'on est pris tout de suite alors après, il y a la force de la direction d'acteur et puis évidemment de Dominique Blanc. Et je trouve qu'elle exprime cette colère, ce chagrin mécontenu et qu'on arrive à avoir une émotion, alors qui n'est pas une émotion facile, c'est-à-dire que c'est pas du tout dans le pathos, elle est toujours dans la retenue, il y a les moments de la crucifixion qui est très dur, c'est toujours dans ce rejet de la légende du Christ, de la légende dorée, cette femme qui a souffert de ce fils qui lui est échappé, qui est mort et qui va avouer à la fin qu'elle a fui au moment de la crucifixion et pas du tout qu'elle est restée au pied de la croix, etc. Donc c'est assez déchirant, et en même temps, ce qui est extraordinaire, je trouve, dans le texte, le spectacle, la façon dont joue Dominique Blanc, c'est qu'en même temps, c'est pas tout à fait choquant pour un croyant, parce qu'il y a quand même une dimension mystique dans le personnage, malgré son côté, ce côté Marie fait femme.
René Solis, sur ce testament de Marie.
Bon, moi je suis sorti un peu énervé quand même, je vais le dire. J'aurais envie de dire rien à cirer, quoi. Mais je veux dire que Deborah Warner soit une metteur en scène de talent, oui, une découverte. Que Dominique Blanc soit une actrice formidable, c'est pas une découverte non plus. C'est pas ça qui est en cause. Je veux dire, applaudis volontiers Dominique Blanc. Non, je trouve qu'on est dans une espèce de caricature du radical chic et de la fausse transgression. Je trouve que ce texte, alors peut-être j'ai pas lu le roman, j'ai écouté ce texte attentivement, en plus il s'écoute assez bien, et cet évangile selon Marie. Moi, je m'en fiche complètement. Je veux dire, cette façon de jouer à l'icône iconoclaste et de raconter des choses qui sont un peu choquantes, mais quand même pas tant que ça, etc. Je vois absolument pas l'intérêt ni l'enjeu de la chose. Je veux dire, je peux peut-être imaginer que quand c'est Fiona Shaw qui l'interprète en Irlande, la pièce étant irlandaise, que oui, il y a là encore peut-être le poids du catholicisme, de l'éducation que l'un et l'autre, actrice et écrivain, ont reçu. Et l'impression que peut-être jouer ça à Dublin, encore aujourd'hui, ça peut choquer du monde, faire débat, et qu'il est important de porter le fer dans le catholicisme, le obscurantiste, et que là, du coup, il y a une espèce de vent de liberté, enfin, tout ce qu'on voudra. Peut-être. En tout cas, je trouve qu'à Paris, en 2017, ce texte est remarquablement, sonne remarquablement creux. Quand on pense aux artistes dont on parlait, Castellucci, Rodrigo Garcia, Lidl, etc. La différence, elle est abyssale, quoi, dans l'enjeu, y compris dans l'enjeu. Alors, encore une fois, j'ai pas été voir le texte de près, mais je dirais quand même dans l'enjeu poétique et littéraire, on n'est pas du tout au même niveau. Et donc, moi, je suis sorti.
Pas seulement ennuyé, mais un peu agacé quand même.
Énervé, hein. Oui, énervé, parce que. Et puis, cette espèce de fausse d'installation, là aussi, au début, où le public peut monter sur scène, il y a un vrai vautour, et puis donc c'est l'allusion au début du monologue où elle raconte l'histoire de l'oiseau de proie qui viscère les lapins et à côté de la croix. Enfin bon, on est dans quelque chose, voilà, de un peu du choquer le bourgeois, ou je sais pas comment dire ça, et ça n'a, enfin c'est remarquablement inoffensif et un peu énervant, oui.
Allez, un petit mot de défense pour finir de Philippe Chevillier.
Ah oui, moi je trouve que ça, d'abord, je pense effectivement que ça choque pas le bourgeois. Justement, c'est ce que je disais, c'est l'ambiguïté et pour moi la subtilité du texte. Deuxièmement, je suis pas d'accord avec l'idée que il y a quand même des catholiques intégristes en France, hein, c'est quand même un mouvement qu'on a vu. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut pas, et c'est quand même un texte qui est profondément athée, même s'il l'est de façon élégante, et qui pose la question quand même d'une religion de foi millénaire, et qui donc va, moi je trouve, assez loin dans cette remise en cause, et qui en plus donne justement une personnalité, un personnage à une femme qui était juste une icône. C'est tout l'enjeu de la pièce. Alors après, évidemment, on peut se dire que c'est une histoire parmi d'autres. Mais enfin, je pense que s'attaquer à une histoire religieuse, et moi je trouve d'ailleurs que je vois déjà poindre des critiques sur le thème justement de la religion remise en cause et tout ça, que c'est un peu moins inoffensif que
ce qu'a vécu René Solis.
Que ce qu'a vécu René, enfin pour moi.
Non, mais peut-être, je crois que le catholicisme est quelque chose qui m'est finalement très étranger.
Allez voir par vous-même le Testament de Marie comme Toybin, mise en scène Deborah Warner. C'est jusqu'au 3 juin à l'Odéon Théâtre de l'Europe avec la comédie française Hors les murs. Et avant de conclure cette émission par un coup de fil, passé à Vincent Dupont, le jeu de la dispute. Et ce soir, c'est Justine Dibling qui est à mes côtés pour tout d'abord rappeler la question du jeu de vendredi soir et surtout pour en donner la réponse, Justine.
Donc la question était, quelle artiste française a réalisé dans les années 90 l'Arche de Noé, un ensemble de sculptures monumentales représentant des animaux géants et exposées aux eaux bibliques de Jérusalem? Et la réponse était Niki de Saint-Phal.
Et on fait gagner ce soir des invitations pour l'exposition L'Esprit français contre culture 1969-1989, c'est à la Maison Rouge à Paris, jusqu'à la fin de cette semaine, puisque c'est jusqu'au 21 mai. Quelle est la question, Justine?
La chanteuse Marie-France a été l'égérie de la France des années 70 et de deux photographes qui ont en particulier signé la pochette de son 45 tours « Je ne me quitterai jamais » en 1982. Qui sont-ils?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales envoyées à auditeurfc@radiofrance.com. Place à présent au coup de fil de la dispute passé par Boris Pinault.
Hello.
Ce soir, le coup de fil de la dispute est passé à l'apostrophe, scène nationale Cergy-Pontoise et Val-d'Oise. Vincent Dupont, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chorégraphe, J'y pense souvent est le nom de votre compagnie et votre nouveau spectacle s'appelle Mettre en pièce. Il s'agit d'une création pour 6 danseurs que l'on pourra voir ce vendredi au Théâtre des Louvrets à Pontoise. Vous écrivez dans le dossier du spectacle avoir voulu, je vous cite, reconduire la danse à un point trop souvent évacué qui est celui de l'acte. Comment est-ce que vous avez travaillé dans l'écriture chorégraphique pour donner forme à cette intention?
Voilà, c'est un petit peu tout l'enjeu de ce projet, c'est comment parler d'engagement sur un plateau, comment peut-être en fait réussir à produire un mouvement qui puisse sortir d'un flux, on va dire d'un flux quotidien. Et là, en l'occurrence, sur ce projet-là, il y a une sorte aussi de, on pourrait dire, de mise à l'épreuve un petit peu du plateau, avec aussi un texte de Peter Handke qui est projeté sur les murs du théâtre. Et la danse essaye de voir comment elle résiste par rapport à ce texte aussi, d'une sorte de mise à l'épreuve du plateau par le texte et aussi du texte par le plateau, pour essayer de parler voilà d'un engagement qui est en fait toujours lié à une décision, on pourrait dire, personnelle, intime, mais qui se partage, qui se joue toujours au sein d'un groupe. Donc on pourrait dire qu'on se retrouve presque dans une configuration qui est celle du spectacle vivant, voilà, un projet qui part toujours de quelque chose de personnel et qui se partage avec une équipe artistique et, pour essayer d'arriver à trouver un mouvement qui s'inscrive un petit peu en dehors de certaines habitudes.
Vous empruntez justement à propos de ce texte de Peter Handke quelques extraits. Il s'agit du texte « Outrage au public » qui est sa première œuvre théâtrale. C'est un texte résolument subversif. Handke, il décortique la représentation théâtrale et démonte les conventions qui la régissent. Est-ce que votre spectacle procède de la même démarche ?
Alors on essaye un petit peu, oui, de voir comment la danse face à ce texte et à ce questionnement peut justement trouver sa place, comment rester présent en fait aussi. C'est vrai que c'est un petit peu aussi, il y a quelque chose qui est une sorte de, ouais, de confrontation un petit peu avec le théâtre, je dirais de façon plus large, pas le théâtre uniquement le texte, mais le théâtre de façon plus globale. Et on essaye, voilà, de déjà bah, en procédant peut-être déjà par accumulation, c'est-à-dire que là on part effectivement d'une décision intime qui est peut-être amenée par un danseur et puis rejoint par un deuxième, voilà, jusqu'à former un groupe, et on essaye de voir comment quelque chose peut arriver de cet ensemble à inscrire un mouvement qui nous surprenne un peu.
Alors parlons un peu de la scénographie. Les danseurs évoluent sous un plafond mobile constitué de 49 sphères en suspension qui menacent de les écraser. Vous avez conçu ce dispositif avec Sylvain Giraudeau. De quelle façon est-ce que vous l'avez pensé justement ce dispositif-là ?
Alors en fait, c'est vraiment c'est un peu la question du flux justement, c'est-à-dire ce flux qui un peu nous écrase quotidiennement, comment en sortir, comment trouver les moyens de justement pouvoir trouver une certaine liberté. Et donc ce plafond joue un petit peu comme une sorte, en tout cas à certains moments dans le spectacle, une sorte d'écrasement un peu des danseurs. Les danseurs se font littéralement écraser au sol par ce plafond, et puis ils vont trouver des moyens petit à petit de reprendre l'espace, pouvoir un peu lutter, il y a une sorte de combat d'ailleurs qui s'engage avec ces sphères mobiles pour essayer de peut-être retrouver un espace perdu.
Alors des costumes au décor en passant donc par ces fameuses sphères, le noir est partout sur scène qui elle-même est plongée par intermittence dans l'obscurité totale. Pourquoi le noir s'est-il imposé au moment de la création ?
Alors je pense que peut-être la question de l'engagement sûrement, et puis le noir en fait c'est un petit peu notre couleur de base en fait du spectacle vivant. C'est-à-dire, on part en général du noir, même si c'est de plus en plus difficile d'avoir le noir sur un plateau, d'ailleurs c'est un petit peu un problème avec les normes de sécurité maintenant, mais normalement on part du noir, voilà. Donc là c'était vraiment peut-être quelque chose de très simple, noir, lumière, et rester quelque chose d'assez basique pour se concentrer peut-être sur les corps, sur les apparitions de corps, sur les présences, et puis sur le mouvement.
Les danseurs portent des micros HF, on entend leur souffle, un travail sur la voix a été fait. Également, les danseurs grognent et mugissent en même temps qu'ils halètent, leurs mouvements sont assez incisifs. Qu'est-ce que la voix et le souffle des danseurs prennent en charge pendant la représentation ?
Déjà, le travail sur le souffle, c'est vrai que c'est un travail que moi je fais maintenant depuis une dizaine d'années, depuis un solo que j'ai créé en 2005 qui s'appelait Au cri miniature, où j'essaye un petit peu de comprendre comment déjà le mouvement est relié au souffle, hein, comment un mouvement se respire différemment aussi. Il y a plein de façons de respirer le même mouvement. Et puis aussi, d'être en contact avec sa propre respiration quand on danse, c'est aussi un moyen de pouvoir aussi déplacer certaines habitudes aussi du mouvement, comme dans une sorte d'immersion, en fait, avec soi-même, mais partagé avec les autres. Du coup, quelque chose, vous voyez, qui déplace un peu le mouvement et qui permet justement peut-être de trouver une énergie différente pour sortir du flux, en fait.
Merci beaucoup, Vincent Dupont. Votre spectacle s'appelle « Mettre en pièce » et on pourra le voir ce vendredi, le 19 mai, au Théâtre des Louvrais à Pontoise, puis le 23 mai au Théâtre Paul-Éluard de Beson. Merci et belle soirée à vous.
«
Toutes les informations sur cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, site sur lequel vous pouvez réécouter ou podcaster nos émissions. Je vous donne rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée au cinéma. Je serai en compagnie de Charlotte Garçon, Corinne Rondeau et Antoine Guillot. À notre affiche Alien Covenant de Ridley Scott, Mulholland Drive de David Lynch, qui est ressorti la semaine dernière et qui sortira bientôt en Blu-ray. Et puis Barbet Schroeder, Un regard sur le monde, c'est un coffret de 5 DVD du cinéaste pendant que se poursuit sa rétrospective au centre Georges Pompidou. Bonne fin de soirée à l'écoute de France Culture. À 22h15, les discussions du soir et dans quelques instants, le journal de la rédaction.